Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel.
Bonjour à tous, c'est Dialogue. Bonjour François Sorel.
Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel des nouvelles technologies, c'est tous les mardis, en téléchargement gratuit, sur Internet. On est ravis de vous retrouver. On va passer un petit quart d'heure ensemble.
Cette semaine, nous parlerons des premiers ordinateurs sans disque dur.
Eh oui. Mais alors comment marche-t-il, Jérôme, s'ils n'ont pas de disque dur ?
Tu vas tout comprendre. À la place des disques durs, on a mis des mémoires flash, un peu comme ce qu'il y a dans les appareils photo. C'est Samsung qui fait ça. On a un responsable de Samsung pour en parler dans un instant.
Rien à voir avec les flash des appareils photo, là. C'est la mémoire flash.
Non, attention.
On parlera aussi de sécurité Wi-Fi tout à l'heure. On s'intéressera à une étude très intéressante qui a mis en avant en fait, l'explosion des réseaux Wi-Fi dans les grandes villes d'Europe et puis surtout leur niveau de sécurité.
Explosion, tu veux dire la multiplication,
quoi. Voilà.
Parce que c'est pas dangereux le Wi-Fi.
Non, c'est pas dangereux.
Si c'est pas sécurisé.
On aura un expert tout à l'heure qui nous en parlera. Et puis Jérôme, tu as testé le nouveau MacBook, verdict tout à l'heure ?
Oui, c'est le nouvel ordinateur portable d'Apple. Bah écoute, comme d'habitude, il y a du bien, il y a du moins bien. Je te raconterai tout ça dans un instant.
En tout cas, qu'est-ce qu'il est beau.
C'est vrai.
Jérôme, je te propose de parler de mémoire maintenant, dans Dialogue. Alors pas la tienne qui, on le sait, est défaillante.
Non, j'ai oublié ce que tu voulais dire.
Celle électronique, celle qui est tout autour de nous. Partout, on a de la mémoire maintenant, dans nos ordinateurs, dans nos baladeurs MP3. Mmh. D'ailleurs, c'est la première question qu'on se pose quand on achète un baladeur MP3 aujourd'hui. Quel genre de mémoire va-t-on choisir ?
Flash ou disque dur ?
Ouais. Flash ou disque dur. Donc flash, on le sait, avantage, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mmh. C'est très léger, c'est très costaud. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la capacité de stockage qu'on a sur un disque dur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Cette question qu'on se pose pour les baladeurs MP3, peut-être qu'on se la posera aussi pour les ordinateurs portables.
Effectivement, puisque Samsung, c'est le coréen Samsung qui a eu le premier cette idée-là, va sortir ce mois-ci les tout premiers ordinateurs équipés de mémoire flash à la place des disques durs.
Donc plus de disques durs dans l'ordinateur, simplement de la mémoire flash.
Voilà. Avantage, ça consomme moins, ça prend moins de place, a priori c'est moins fragile.
Oui. L'ordinateur démarre plus vite aussi.
Oui, c'est vrai. C'est ce que va nous expliquer Christopher Partridge, qui est chef de produit notebooks chez Samsung. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer les avantages de la mémoire flash par rapport au disque dur sur un ordinateur ?
Les avantages principaux de mettre la mémoire flash dans ce genre de produit, c'est en premier pour la consommation, pour la batterie, pour augmenter l'autonomie d'un produit avec un composant électronique au lieu d'un composant physique. Il y a aussi un pratique très, très important pour la rapidité, pour les accès aux informations. Pour le mémoire flash par rapport à un disque dur classique et aussi le bruit qui est diminué beaucoup par rapport à un disque dur qui tourne à l'intérieur d'un produit au lieu d'un produit qui a la mémoire flash dedans.
D'accord, mais quels sont les inconvénients maintenant de la mémoire flash par rapport au disque dur ?
L'inconvénient aujourd'hui, c'est pour mettre beaucoup de mémoire. Si on parle d'un taille de disque dur par rapport à un 100 gig ou un 120 gig, par exemple, c'est beaucoup plus cher de mettre le mémoire en flash que de mettre un disque dur physique aujourd'hui.
Est-ce qu'à terme, on peut envisager que ce type de mémoire flash, remplace carrément les disques durs, en tout cas en priorité dans les ordinateurs portables ?
C'est quelque chose qui est envisageable dans le long terme. Dans le court terme, je pense qu'il y a toujours un marché qui va demander le disque dur dans son état aujourd'hui, lié vraiment à cause de le prix de la mémoire en comparaison d'un disque dur physique.
Est-ce qu'on peut donner, je dirais, une différence de prix, en tout cas, l'augmentation de prix sera de combien un jour on passe du disque dur à la mémoire flash sur un ordinateur ? Ça coûtera combien ?
Pour la mémoire flash, par exemple, pour un 30 gig, aujourd'hui, ça va être un premium de, je pense, dans la région de 20-25% par rapport à un disque dur classique. Ça va augmenter beaucoup par rapport à un disque dur classique, par exemple, dans 100 gig ou 120 gig.
D'accord, très bien.
Mmh. Ok.
Merci beaucoup.
Très bien.
Je vous en prie, merci.
Merci. Alors François, je sais pas, peut-être que la prochaine étape après, c'est l'ordinateur sans clavier, l'ordinateur sans microprocesseur.
C'est le cerveau, quoi, finalement, la prochaine étape, non ?
Ouais, effectivement.
Dialogue, la chronique des nouvelles technologies.
François, rappelle-toi, il y a quelques années, lorsque le Wi-Fi a commencé à se répandre, notamment dans les entreprises,
oui.
Des petits rigolos s'étaient amusés à aller se promener du côté de la Défense à Paris avec un ordinateur portable et ils arrivaient à capter tous les réseaux d'entreprises.
Oh mon Dieu, quel film d'horreur effrayant, Jérôme, cette histoire-là.
Il y avait un papier dans le Canard Enchaîné, je me souviens là-dessus.
Ah oui ?
Ben oui, parce que les sociétés découvraient le Wi-Fi, mais elles avaient oublié de sécuriser leur réseau sans fil. Mm-hmm. Donc du coup, leurs données se retrouvaient quasiment ouvertes aux quatre vents.
Bon, alors maintenant, cette situation a bien changé. Elle a bien changé, mais pas de manière radicale. Et on va en parler avec notre invité, Alexandre Stervinou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des solutions pour développeurs RSA Security. Vous avez mené justement une enquête dans les plus grandes villes du monde concernant les réseaux Wi-Fi donc, en ville et puis surtout leur niveau de sécurité.
Alors déjà, on remarque trois points majeurs. Au fur et à mesure des années, et encore une fois, c'est sur une durée de 5 ans qu'on a fait cette étude, au fur et à mesure des années, les réseaux sans fil prennent de plus en plus de prépondérance dans l'entreprise. Donc on voit actuellement le nombre d'accès, de points d'accès qui sont de plus en plus élevés, à la fois à Londres, New York ou Paris.
Alors juste une question technique, comment faites-vous concrètement pour réaliser cette enquête ? Vous vous baladez dans les rues de Paris avec une espèce de Wi-Fi espion pour capter les réseaux, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est un peu la méthode Road Warrior du hacker, on va dire. On a donc un laptop, un portable et puis un système d'équipement sans fil que tout le monde peut se procurer dans la rue. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, rien de révolutionnaire. Et on observe, on écoute et on regarde si ces réseaux sont présents ou pas et on les enregistre et les analyse.
Et alors, c'est, grosso modo, est-ce que les entreprises sécurisent mieux qu'avant leurs réseaux ?
Oui, globalement, d'année en année, on remarque une augmentation de la sécurisation de ces réseaux sans fil, avec notamment des systèmes de chiffrement qui sont mis en place par les entreprises, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une bonne chose. On arrive à Paris à 78% actuellement au niveau de l'usage du chiffrement. Maintenant, ça veut dire que le reste, 22%, sont non sécurisés, ce qui reste quand même un problème.
Alors évidemment, c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que ces réseaux qui ne sont pas sécurisés, c'est un peu des moulins ouverts, c'est-à-dire que tout le monde peut aller voir un peu ce qui se passe dedans, c'est ça ?
C'est un peu ça, c'est comme si vous sortiez de votre immeuble chez vous et vous laissez la porte de votre appartement ouverte. En fait, ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un n'est pas forcément au courant que cette porte est ouverte, mais quelqu'un peut aller voir et effectivement y rentrer.
Alors, je crois que votre société a également localisé ce qu'on appelle des hotspots voyous. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors là, ce sont typiquement des hotspots qui vont faire semblant d'être réel. C'est-à-dire que dans un scénario comme celui-là, imaginez que vous êtes à la Société Générale et vous avez des points d'accès sans fil, par exemple, qui sont tout à fait légitimes, et bien vous pouvez avoir une personne mal intentionnée qui va mettre en place un accès qui, lui, semble venir de la Société Générale, mais qui ne l'est pas du tout.
Donc les conséquences sont quoi, là, en fait ? On va espionner notre configuration informatique, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que vous pourrez penser qu'en tant qu'employé, vous pourrez penser vous connecter à un réseau qui est légitime, celui de votre entreprise, mais en fait non, vous êtes en train de vous connecter à un réseau qui appartient à quelqu'un d'autre, une personne, une tierce personne, dont le but va être d'espionner vos transactions ou vos communications avec votre ordinateur portable.
Juste un mot sur la sécurisation de ces réseaux. Est-ce qu'ils ont une sécurisation up-to-date ou parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le web n'est pas... est facilement craquable aujourd'hui. Quels sont les niveaux de sécurisation de tous ces réseaux ?
Alors ça, c'est un point qui est assez important. Comme je le disais tout à l'heure, on a 78% des réseaux qui sont actuellement sous web, donc qui utilisent ce système de chiffrement, ce qui est une bonne chose. Mais encore une fois, web a été craqué dans le passé. Donc ça représente une première barrière. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est au-delà de ça, mettre en place un VPN, un réseau privé virtuel, sur la connexion au réseau d'entreprise. Là, à ce moment-là, on arrive à un système sécurisé au maximum.
Et ça, c'est quoi ? C'est des investissements supplémentaires ? C'est beaucoup de techniques en plus ? Ça se passe comment, concrètement ?
Concrètement, vous avez actuellement dans les systèmes d'exploitation comme Windows, vous avez également dans les équipements de routeurs venant de différents manufacturers, providers comme Cisco et autres, vous avez la possibilité de mettre en place des VPN, des solutions VPN sans équipement supplémentaire au-dessus. Maintenant, ce qu'il faut également, c'est penser à l'authentification forte sur ces réseaux. On parlait tout à l'heure de ces points d'accès espions. Si vous êtes capable de vous authentifier de manière forte sur un VPN, c'est-à-dire que vous avez une carte caractéristique unique qui vous appartient, qui est liée à celle de vos entreprises, globalement, vous ne pouvez pas mettre en place un accès espion de ce type-là.
Bien, merci Alexandre Servinou.
Merci.
Alors on rappelle que vous êtes de la société RSA qui a donc mené cette étude sur la sécurité des réseaux Wi-Fi d'entreprise.
Dialogue, François Sorel, Jérôme Colombin.
Alors Jérôme, Dialogue, c'est des interviews, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, mais c'est quand on en a l'occasion, des tests de produits. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir tester de temps en temps les tout derniers produits. Et ça va
les
être
produits
le cas.
High-tech, hein, moi je ne fais pas les machines à café. Et
les cornflakes, les choses comme ça, les steaks hachés, tu ne les testes pas.
Non, je te les laisse. Ouais.
Et donc, on va s'intéresser au MacBook d'Apple, le tout nouveau, qui est d'ailleurs très très beau. On l'a devant les yeux, là, donc il est portables. Soit noir, soit blanc. Et tu vas nous dire un petit peu ce que tu en as pensé.
Alors, moi, j'ai adoré un truc sur cet ordinateur.
Merci,
que j'ai
Jérôme,
pendant
c'était bien.
Quelques jours. Je vais être encore plus bref, tu vois. Et il y a un truc génial. Tu sais, c'est le touchpad, le petit truc qui remplace la souris sur les portables. Mmh. Ben, d'habitude, tu utilises ton gros doigt, comme ça, là, pour faire bouger ta souris.
C'est pas toujours pratique. Hein. D'ailleurs, ça ne vaut pas une bonne vieille souris. Hein, quand même.
Absolument. Mais surtout, il n'y a pas de molette pour faire défiler une page sur un écran, de haut en bas ou de droite à gauche. Et ben là, Apple a inventé un truc génial. Au lieu de mettre un seul doigt, tu en mets deux. Et du coup, le mouvement que tu fais sur le touchpad, lorsque tu as tes deux doigts, ça fait défiler toute la page.
D'accord, ça fait donc du scrolling, c'est ça,
le
fameux scrolling.
Ouais. Alors en fait, c'est un système qu'il avait déjà introduit sur des ordinateurs, sur une gamme précédente. Mais là, il y a un petit plus sur les nouveaux MacBook et les nouveaux MacBook Pro. La nouveauté sur ces nouveaux ordinateurs, c'est qu'il y a désormais le clic à deux doigts et qui remplace, je te le donne en mille, tu sais pas. Hein,
non, aucune idée.
Eh bien, ça remplace un clic droit, un clic de souris droit, puisque ça n'existe pas le clic droit chez Apple. Il n'y a pas de bouton droit sur les souris. Sauf que là, tout d'un coup, il y en a un. Donc, ça donne accès à des menus contextuels. Mm-hmm. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Hein.
Pas forcément, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, côté écran, tout ça...
Magnifique.
Magnifique, superbe.
Ouais. Comme tous les nouveaux écrans, les nouvelles générations d'ordinateurs, il est traité pour plus de luminosité, mais souvent il y a des reflets là, il n'y a aucun reflet même en pleine lumière. Il est tout petit, sur les MacBook Pro, c'est-à-dire la gamme Pro, toujours dans les portables, le clavier est rétroéclairé, c'est magnifique.
Ah, c'est superbe.
Qui s'allume.
Bah, c'est comme toujours chez Mac, hein,
le design
est superbe.
Voilà, les petites choses. La caméra est intégrée, ça c'est sympa à signaler. Petite webcam intégrée, c'est une chose qu'on va retrouver de plus en plus dans les PC également. Ça se fait de plus en plus sur les PC portables.
En revanche, il est un peu lourd. Hein.
Il est un peu lourd, il fait 2,36 kg. C'est pas énorme, mais c'est pas ce qui se fait de plus léger aujourd'hui, effectivement. Bon, petit détail aussi, moi j'ai noté qu'il chauffait un peu. Hein, quand tu l'as sur les genoux, ça brûle un peu. Mais là encore, il n'est pas le seul, c'est le défaut des ordis de plus en plus petits. En résumé, moi je dirais que c'est quand même une très belle machine, sans doute un très bon rapport qualité-prix, un petit peu lourd, mais avec un très gros effort de prix chez Apple pour cette gamme de portables, puisque
ouais,
ça démarre à partir de 1 000 euros. Pour du Apple, c'est pas très cher finalement.
Alors attention, cette machine n'est pas faite pour le jeu, le chipset graphique n'est pas foudre de guerre, donc vous ne pourrez pas faire tourner les derniers jeux dans des conditions vraiment excellentes. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme dedans il y a des processeurs Intel, on peut installer Windows, donc on se retrouve avec un ordinateur qui permet à la fois de faire tourner Mac OS X, mais aussi Windows, c'est pas mal hein, quand même.
Absolument.
Donc il a le saut Dialogue. Hein
oui, on peut lui mettre notre imprimatur, on lui met 3 étoiles, 4
D'accord.
étoiles.
Oui, il les mérite. C'est là-dessus qu'on se dit au revoir, Jérôme. On se retrouve mardi prochain.
Oui, on va tester autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, les tasses à café.
Oui, le grille-pain Wi-Fi aussi,
oui, hein,
qui est important.
On a du pain sur la planche.
Et puis la commode à écran plasma. Donc, rendez-vous la semaine prochaine.
Il est temps de prendre des vacances.
Ouais, et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie, écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et à mardi.
À très bientôt, bonne semaine.
Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.